Les rencontres du magazine de l'ACFAS. En 1960, Céline Saint-Pierre entreprend des études dans une discipline toute nouvellement installée, la sociologie. Et c'est bien ce qu'elle recherchait, un champ de connaissances où elle pourrait rendre service à sa société en la révélant à elle-même. Dès 1969, elle devient professeure à l'Université du Québec à Montréal. Le mouvement ouvrier et les changements sociaux, le travail des femmes et les nouvelles technologies seront ses principaux objets de recherche. On reconnaît aussi à cette sociologue du travail une contribution significative à l'administration de la recherche universitaire, à la création de centres de recherche, au secrétariat général de l'Association internationale de sociologie et à la présidence du Conseil supérieur de l'éducation.
D'abord, j'ai choisi la sociologie. C'était une recherche d'orientation qui était la mienne dans la fin des années 50 au collège classique. Je cherchais une discipline qui me permettrait de comprendre la société dans laquelle je vis. Je ne voulais pas être une travailleuse sociale, je ne voulais pas être une infirmière. Il faut comprendre que c'est à peu près les métiers féminins de l'époque, enseignante au primaire, secondaire, mais je cherchais vraiment à comprendre. Et grâce à un professeur de géographie humaine qui est venu à mon collège nous parler de la géographie humaine, il m'a dit à la fin, une question que je lui posais, il existe à l'Université de Montréal une nouvelle discipline, c'est-à-dire une discipline qui vient de s'installer à l'Université de Montréal en 58, moi j'allais entrer en 60, qui s'appelle la sociologie. Et la sociologie répondait à ce que je cherchais en ce sens qu'elle était une discipline qui, par son objet, la société, était en même temps à la recherche d'être redevable à la société par les connaissances qu'elle produit. Alors, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, et je suis entrée à l'Université de Montréal en 1960 pour faire un bac et une maîtrise en sociologie. Et à la suite de cela, je suis allée faire un doctorat à Paris avec Alain Touraine, qui, à l'époque, se posait des questions sur la sociologie, le changement social, tout comme Guy Rocher à l'Université de Montréal, mais en même temps se poser la question de comment la société change-t-elle. Il parlait de mouvements, les mouvements sociaux. Alors, je me suis engagée dans la recherche en tant que professeure d'université, parce qu'il faut savoir que les structures de l'époque de la recherche sont surtout plus ou moins bien implantées dans les universités. Et donc, à mon retour de Paris, je suis embauchée à l'Université de Montréal comme jeune professeure, et nous commençons à organiser la recherche au sein de petites équipes très conviviales qui avaient des affinités pour des objets de recherche. Et mon premier objet de recherche a été celui du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, non seulement dans l'aspect histoire, parce qu'avec Jacques Dauphiny, un professeur venu de Belgique, on avait constaté qu'il n'y avait aucun livre susceptible de nous donner la vision ou la connaissance de l'évolution du mouvement ouvrier au Québec. Et il nous avait orientés dans nos thèses de doctorat à choisir différentes périodes. Déjà, il y avait là le choix d'un champ de recherche qui répondait à un objectif qui était le mien de mieux connaître la société dans laquelle je vis. Et je me suis vraiment engagée dans cette recherche sur les années 30, sur le mouvement ouvrier, sur le plan théorique, je me suis intéressée aux classes sociales. Je vais m'intéresser, à la fin des années 70, début des années 80, au changement technologique. Début des années 80, on est dans une grande période d'instauration de la robotique dans les entreprises industrielles et de la bureautique dans les entreprises du secteur tertiaire. Et je trouve là une occasion d'entrer dans un nouveau monde qui est celui du travail des femmes. Et je fais encore là une petite équipe de recherche, toujours le modèle traditionnel, convivial, et nous travaillons peu à peu sur les différents champs de travail des femmes, l'impact des transformations technologiques sur les travails de bureau, les employés de bureau, les employés de banque, les employés des assurances, etc. Et nous sommes beaucoup sur le terrain. Parce qu'en même temps, depuis les années 60, avec ma formation, on était beaucoup mieux formés, on était très bien formés en méthodologie pour aller sur le terrain. Alors, je rentre dans ce chantier-là de travail des femmes et conciliation avec l'organisation du travail puis les systèmes de décision dans les entreprises, où sont les femmes quelles sont les structures de promotion, quelle est la division du travail, quel est l'impact de la technologie sur la santé des femmes. Ça, ce n'est pas moi qui travaille avec ça, mais je travaille là-dessus, mais je rentre dans une recherche interdisciplinaire, d'une certaine manière. Et là encore, ma préoccupation, c'est qu'il faut diffuser ces recherches-là le plus vite possible. Alors, je rentre avec Sophie Bissonnette, conseillère sur un film qui s'appelle « Les puces qui piquent nos jobs ». Et on fait des documentaires, et les femmes qui travaillent à Bell Canada, en tout cas, ça rejoignait mon premier choix qui était d'être documentariste. Alors, j'encourageais beaucoup la diffusion par le cinéma et par le documentaire. Je me préoccupe plus ou moins de publier dans des revues scientifiques. Mais là, je deviens un petit peu coincée, plus ou moins. Là, les critères changent. On évolue vraiment vers une évaluation de la recherche dans les universités. Mais en même temps, nous sommes des professeurs. Alors, dans les années 80, il y a comme deux enjeux en sciences sociales, du moins pour la sociologie, peut-être pour la science politique. C'est d'abord d'articuler notre première fonction, qui est la formation des étudiants au bac, maîtrise et doctorat, parce qu'on a maintenant des doctorats faits des années 70. C'est de faire cette articulation-là. Et l'autre chantier, ou enfin l'autre enjeu plutôt, c'est celui de concilier notre besoin d'être des révélateurs de la société à elle-même en ayant des outils de diffusion qui sont plus dans les médias populaires, les revues d'organisations syndicales ou d'organisations communautaires et les publications scientifiques. Ça devient extrêmement difficile de concilier les deux. Je peux vous dire qu'au début des années 80, quand je suis arrivée 5 ans plus tard, avec une énorme subvention des actions structurantes du ministère de l'Enseignement supérieur de la science et de la technologie, j'ai fait 2 CV. Mon CV de citoyenne avec tout ce que je faisais comme chercheur, mais aussi intervenante, puis mon CV de chercheur, avec tous les critères de cette époque-là, qui sont devenus les critères actuels de l'évaluation de la recherche. Mais ça a été un enjeu. L'enjeu était aussi que dans les universités, on fait l'évaluation des professeurs. Et la recherche a pris le dessus, à mon avis, dans les années 90, sur l'évaluation du professeur. Et pour les sciences sociales, si je parle de cette époque-là, c'était un choix pour le sociologue ou peut-être pour le politologue, mais le sociologue certainement, c'était de délaisser d'une certaine manière, parce qu'on ne pouvait pas y arriver, la société civile, la délaisser en termes d'intervention puis de conférences, puis de présence dans les organisations de recherche, des syndicats, etc. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais j'ai dû délaisser ça parce que l'organisation de la recherche scientifique là, prenait le pas sur notre façon de faire de la recherche. C'est un tournant dans la recherche, non seulement dans la place qu'elle occupe dans l'université, mais dans la place qu'elle occupe dans la carrière, si on peut ainsi dire, du professeur-chercheur et dans les critères d'évaluation des résultats de la recherche produite par les sciences sociales. Et on est influencé par le modèle des sciences naturelles. Les sciences naturelles avaient déjà, dans les universités depuis longtemps, des équipes de recherche, des écritures d'articles à plusieurs auteurs, et avait évolué aussi vers les milieux de la recherche dite prestigieuse, publiée dans les revues anglophones, de langue anglaise surtout, disons américaine principalement. Je pense qu'il y a eu une influence qui est venue de ce courant-là, mais il est venu des politiques publiques en recherche. J'ai siégé, moi, dans les années 80, au FCAR. Ensuite, j'ai siégé au Conseil québécois de la recherche sur la société et culture, CQRS. Je connais mieux les sigles que les dénominations. Et à cette époque-là, on commençait à dire « il faut quand même structurer » parce qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Comment va-t-on choisir les équipes? Comment va-t-on les financer? On va les financer avec certains montants d'argent, mais comment les évaluer? Et on emprunte aux sciences naturelles les critères qui vont permettre d'évaluer les recherches, les chercheurs, et les produits de la recherche. C'est beaucoup le modèle des sciences naturelles. C'est bien, et en même temps, il y a un côté un peu sombre à cette histoire, parce que en sciences sociales, l'écriture du résultat de la recherche ne peut pas souvent se faire à plusieurs. Chacun a un peu son morceau, son aspect, de la, son angle, sa vision de, d'analyse. Et le livre est très valorisé. La manière dont les universités sont structurées par département empêchait ou était trop rigide, n'était pas des milieux intellectuels. Et ça se comprenait parce que c'était à l'intérieur d'un département, une équipe de chercheurs et de professeurs dans des secteurs diversifiés de la sociologie. Moi, j'avais à travailler avec des sociologues du travail en France, en Italie, en Allemagne, au Québec. Alors, c'était mon milieu de recherche. Et j'ai découvert en même temps, en ayant cette grande équipe de recherche, qu'on pouvait mieux former les étudiants de maîtrise et de doctorat, puisqu'on était, c'est une famille. On vivait presque ensemble, en mangeant le midi, on avait des occasions informelles de discuter, on arrivait à échanger et à produire de la connaissance d'une autre manière. Elle s'ajoutait à celle des séminaires, des cours, mais elle était essentielle à la vie intellectuelle. Parce qu'une équipe de recherche, pour moi, c'est un lieu de production intellectuelle, c'est un lieu de production de connaissances, et ça ne se fait pas seulement par la transmission d'un professeur vers un étudiant. On a à apprendre des uns et les autres. Je vais changer de métier en 92. Je vais devenir vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche. Et c'est là que j'ai eu cette idée de dire qu'il faut décloisonner les espaces dans l'université, les espaces de département, il faut les ouvrir. Il faut permettre des instituts de recherche, des chaires, du travail interdisciplinaire, des rencontres scientifiques dans l'université. Et c'est des idées qui ont été lancées, puis qui maintenant, après, je pense qu'on les a un peu... ça fait boule de neige, d'une certaine manière, mais les départements sont toujours restés les lieux administratifs plutôt que des milieux intellectuels. Mais comme il y a ces espaces de recherche, je pense qu'on peut pallier ce problème-là. C'est l'époque où on va créer des centres de liaison et de transfert. On produit le CRIM, le Centre de recherche en informatique de Montréal, le CEFRIO, où moi j'étais membre du CEFRIO, puisque nos recherches portaient sur les changements technologiques et organisationnels. Donc c'est une façon de situer l'institution, l'équipe de recherche, dans son lien avec la société. Et c'est un nouveau volet qui apparaît là du chercheur qui va produire de la recherche en vue de son transfert. Et l'articulation entre le métier de chercheur, et le métier de chercheur agent de transfert, ça devient un nouvel enjeu dans l'évolution de la recherche et de la manière de faire, c'est d'articuler ce rôle de transfert avec celui de chercheur. Et ma conviction maintenant, c'est qu'il faut séparer les deux. Ils sont articulés, mais ce n'est pas la même personne qui peut le faire. Il faut laisser les chercheurs à faire leur recherche, les outiller pour qu'ils soient en mesure de discuter avec les milieux de pratique, pour être en mesure de comprendre la demande de recherche. Et là, le chercheur n'est plus le seul à définir le thème de recherche. Il le fait en lien avec un besoin social, un besoin économique, on peut en avoir plusieurs. Et il faut qu'il traduise la demande de recherche en projet de recherche, qu'il produise cette recherche avec des outils qui permettent de la rendre accessible. Et on va évoluer dans l'histoire de la recherche avec l'idée de créer ce que j'appelle un autre volet. Il y a le professeur, qui travaille en convivialité, professeur-chercheur, qui articule les deux fonctions. Et là, on arrive avec le professeur et le chercheur, et ensuite, professeur-chercheur et l'agent de transfert. Et l'INRS va fonder une maîtrise à laquelle j'ai participé dans la conception, maîtrise en formation d'agents de transfert dans différents milieux des sciences sociales. Il y a un pas qui se fait et les universités vont avoir des divisions de la recherche, qui sont la recherche vers le transfert, la recherche et l'innovation sociale, l'innovation technologique. Ça va entrer dans la structure universitaire elle-même avec des subventions à l'appui. Donc, on passe à une autre forme d'organisation de la recherche et du rôle de la recherche dans la société. Quand on revient, on repense à l'histoire de la recherche en sciences sociales, dans les universités. Je fais bien la différence entre les universités et les centres de recherche indépendants. On vit un moment de transformation assez majeur, je pense, au milieu des années 80. Et je crois que des éléments qui nous permettent de penser ou d'adopter cette hypothèse, c'est ce que j'ai vécu quand, avec le programme des actions structurantes du ministère de l'Enseignement supérieur de la science et de la technologie, qui ont donné des sommes substantielles à des équipes, à des chercheurs qui s'étaient déjà formés en équipe pour présenter des projets et qui a donné lieu à la fondation à l'UQAM de 203 centres de recherche en sciences sociales préoccupés par les technologies. Le centre de recherche en évaluation sociale des technologies, auquel j'appartenais, j'étais une des fondatrices, le centre de recherche en développement industriel et technologique, et le groupe de recherche en informatique et droit. Ces subventions sont très importantes. Nous, c'est de l'ordre de 1 300 000 $, et ça vient avec des postes, des subventions pour créer des postes de professeurs qu'on appelle des professeurs sous octroi. Ça crée un petit chamboulement dans les façons d'embaucher les professeurs. Jusqu'à cette époque, les critères d'embauche sont définis par chaque département et les candidatures sont soumises à des professeurs déjà membres du département, comité de sélection départementaux. C'est très mal reçu, c'est un changement que les universités n'ont pas contrôlé. Comment se fait-il? On embauche des gens par des portes de côté, il n'y a pas le même type d'évaluation. C'est un moment difficile à passer. J'ai fait partie du comité, le syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal m'a demandé de venir travailler avec eux pour élaborer cette catégorie, pour l'intégrer dans les catégories de la convention collective. Alors, c'est quelque chose qui se vit difficilement, à la fois par les universités, par nous, qui sommes déjà là. Moi, j'étais plutôt ouverte à ce genre de façon de faire, tout en ayant la même rigueur des critères d'embauche, etc. Mais c'est difficile pour les individus qui ont été embauchés. Parce qu'ils arrivent, ils sont rattachés à des départements qui ne les ont pas embauchés. Et les collègues que nous avons choisis essaient d'entrer dans un ou l'autre des départements. Certains sont très fermés, d'autres sont très ouverts. Et donc, certains vont plutôt vers un département que l'autre. Alors là, il y a un tournant. En même temps, on doit se soumettre à une rigueur de gestion. Pas qu'on utilisait très mal les subventions avant, mais notre université faisait les rapports de gestion FCR, etc. Là, il faut tout calculer. Il faut aussi avoir un certain nombre d'étudiants de doctorat, un certain nombre d'étudiants de maîtrise, il faut avoir des publications, et il faut aussi publier dans des revues de prestige. Donc, ça nous transforme comme personne, ça nous transforme comme chercheurs. On devient un peu des gestionnaires de recherche à un niveau de production, au niveau de la production. Alors qu'avant, les gestionnaires de la recherche étaient plutôt dans les divisions, les décanats de recherche au niveau de l'université, de l'institution. Et on était à chacun à notre tour, on devient directeur de recherche. Il faut opérer un certain contrôle, ce qu'on faisait pas avant, hein, contrôle de la production, stimuler les uns les autres vers la publication des recherches. Il faut sortir des doctorats, il faut sortir des maîtrises. Là, on commence à calculer, on quantifie la recherche. Mais la qualification de la recherche, quelle est la qualité des recherches produites? On a déjà l'évaluation des étudiants lorsqu'ils passent leur doctorat par les pairs, la même chose pour la maîtrise. Et nous, et les organismes subventionnaires changent leur manière de faire. Et les organismes subventionnaires vont aussi avoir un nouveau défi, c'est de définir des thématiques de recherche et d'orienter les subventions de recherche vers certaines thématiques. Alors, l'espace de recherche en sciences sociales se redessine, non seulement à partir, et non plus, ça ne se fait plus comme ça, à partir des désirs des professeurs, chercheurs, des décisions que prennent les chercheurs selon l'état des connaissances dans leur discipline. Ces critères et ces thèmes sont définis par des comités d'organismes subventionnaires qui tiennent compte à la fois de la conjoncture de la connaissance, probablement, ou des besoins de recherche dans la société québécoise, et aussi de ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, on devient des organisations et des petites entreprises en recherche. Ça, c'est un tournant qui est difficile, mais nous, je pense, en tout cas, je pense, mes collègues pourraient me contredire, mais je pense qu'ils seraient assez d'accord avec moi, pour dire que le CREST et le CREDIT, on travaillait beaucoup ensemble déjà. Le GRID, c'était des professeurs de droit, et de toute façon, étaient situés dans un autre édifice. Alors, on se parle beaucoup, on évolue vers une idée d'abord d'agir de la même manière, et on évolue vers une idée de fusion. Et donc, en 92, donc on est fondé en 85, on embauche des professeurs sous octroi, et nous, dans le CREST, on avait aussi le poste de professeur agrégé. Et là, nous avons eu une candidature qui est Camille Limoges, qui est venue, Camille a soumis sa candidature à un poste qui était annoncé dans les journaux. J'étais extrêmement surprise parce qu'il était le sous-ministre à l'enseignement supérieur et à la science et la technologie. Je pensais qu'il allait y rester pour un bon moment, mais non, il voulait redevenir un professeur d'université. Il avait été fondateur de l'Institut de sociopolitique des sciences à l'Université de Montréal. Alors, il entre dans notre équipe. Et là, en 92, on commence à penser à une fusion du CREDIT et du CREST, mes deux organismes. Et m'arrive un nouvel événement dans ma vie. Je reçois une pétition de professeurs et de cadres à l'Université du Québec à Montréal pour que je me présente comme candidate au vice-rectorat en enseignement à la recherche. Moi, je suis incapable de laisser mon équipe de recherche. Je ne veux pas et on est en train de fusionner. Alors, j'ai dit à Camille Limoges, Camille, toi, tu te présentes comme vice-recteur. Moi, je reste ici. Je vais faire la direction du futur centre du CIRST. Il me dit non. Toi, les femmes sont en. Vous avez fait tellement de travail pour revendiquer puis accéder à des postes de direction. Je pense que c'est ton tour d'y aller. Tu y vas, puis moi, je te promets que je vais prendre la direction du CIRST, ce qu'il a fait. Et c'est là que j'ai délaissé la recherche. Mais quand j'ai parlé au recteur, je lui ai dit j'ai encore beaucoup de doctorats avec moi qui ne sont pas terminés. Je les accroche à ma manche et ils vont entrer dans mon bureau de vice-rectrice avec moi. Alors, le recteur a dit oui. Il m'a dit, tu te débrouilles. La sociologie ne peut pas exister sans son rapport à l'objet, comme je le disais au tout début, qui est la société dans laquelle on vit. Alors, si on veut faire une comparaison, il faut rétablir la recherche de terrain. Il faut encourager les étudiants à faire de la recherche de terrain, il faut faire des études longitudinales et il faut publier dans les revues de nos départements. Alors, il y en a plusieurs et les revues sont plutôt assez vivantes. Sociologie, société, les cahiers de recherche sociologique à l'UQAM et la revue recherche sociographique à l'Université Laval, la revue canadienne de sociologie et d'anthropologie. Je pense que ça va plutôt bien. Donc, Je n'ai pas fait l'évaluation de qui écrit dans ces revues, mais je pense que les professeurs y écrivent, professeurs-chercheurs y écrivent, et ce qui permet de la diffuser dans nos réseaux scientifiques nationaux. Il ne faudrait pas oublier la recherche individuelle, parce qu'il y a des chercheurs qui ont des objets de recherche, ou des tempéraments, il faut le dire, ou des capacités fortes, mais qui doivent le faire en tant qu'individu. Ça, c'est un examen de conscience qu'on pourrait peut-être faire. Est-ce qu'on a délaissé des trajectoires qui seraient encore fort importantes à encourager, très utiles, je ne dis pas utilitaristes et instrumentalisées, mais très utiles à la connaissance en soi et à la diffusion de la connaissance. C'est une question que je me pose. L'autre question que je me pose à partir toujours de cette période-là, qui c'est valable pour aujourd'hui, c'est celle de dire jusqu'où les organismes subventionnaires doivent-ils aller dans la structuration des champs de recherche. Et quels sont les outils qu'ils possèdent en tant que conseillers ou experts ou analystes, évaluateurs de situations, diagnostiques de champs de ce qui est, quelle est la demande et les besoins en recherche. Est-ce qu'ils disposent de tous les outils pour faire les meilleurs choix possibles? Probablement que oui. Je l'espère, mais il faut être attentif à cette orientation-là. On a fait au Québec, et je le répéterai jamais assez, un bond important, majeur, dans le développement de la recherche de qualité et de la recherche qui accepte d'être évaluée. Que ces processus-là peuvent être améliorés, il y a toujours de la place pour être amélioré. Mais je connais bien la France. J'ai travaillé beaucoup, j'ai enseigné, etc. Ils sont venus ici. Ils nous ont regardé comment on a évolué. Parce que le chercheur en France, il travaille tout seul. Quand je parle du chercheur universitaire, mais il est dans une des équipes au CNRS, qui est absolument indépendant, relié plus ou moins aux universités. Mais moi, j'étais au CNRS quand je faisais ma thèse de doctorat. Chaque chercheur avait son bureau puis son petit objet de recherche. Structurer des équipes de recherche comme on le fait, la France est encore en train de le faire en sciences sociales. Alors, et ça nous a permis, nous, comme petite société, qui avait un grand besoin de connaissances d'elle-même, d'évoluer vers une capacité de transfert et d'innovation sociale. Et on voit maintenant comment le champ de l'innovation sociale est important, non seulement dans la recherche, mais dans la société, avec l'économie sociale, les innovations on a développé des centres collégiaux de transfert en innovation sociale, parce qu'on se disait, il y a aussi, le collège est aussi un lieu de recherche et de production de connaissances. Alors, je trouve que ces pas-là sont des pas en avant.